Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast. Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, avec ma femme d'aujourd'hui justement, on va découvrir tout au long de l'entretien la différence entre la force et la puissance, entre une femme forte et une femme puissante. On y va pour les détails.
Média, Yasmine, femme d'aujourd'hui.
Sarah Hakou, bonjour.
Bonjour Lala Yasmine.
Un plaisir de te recevoir. Comment ça va Sarah?
Ça va très bien, alhamdoulilah, et toi?
Un plaisir de te recevoir et que tu sois ma
Merci.
Femme d'aujourd'hui. Pour commencer, toi tu es thérapeute, conférencière, mentor, c'est déjà beaucoup,
oui.
Et puis tu es également podcasteuse. On va y aller petit à petit, ok? Qu'est-ce qui t'a amenée justement, en tant que jeune femme que tu es, parce que la plupart de celles que j'ai rencontrées qui travaillent avec les autres, pour les autres, qui mettent l'humain au centre, sont des femmes, on va dire, avec beaucoup plus de maturité, d'un certain âge, on va dire ma génération et plus. Pourquoi ? Parce
oui.
que souvent, on a rencontré des choses dans sa vie et puis on s'est dit, il faut transformer tout ça pour l'autre. Toi, en tant que jeune femme, tu es déjà dans ce parcours. Qu'est-ce qui t'a emmené très tôt vers l'humain et vers la thérapie ?
Alors, d'ailleurs, merci beaucoup, Léla Yasmine, pour cette interview. Je veux dire, c'est la vie, en fait, c'est les challenges, c'est les difficultés, c'est mon vécu, en fait.
Okay.
Tout ce que je partage aujourd'hui, tout ce que je transmette aux gens que j'accompagne, c'est vraiment, ça fait partie de mon parcours, ça fait partie d'un vécu réel.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que nous, dans Femmes d'aujourd'hui, on est curieuses, en fait.
Oui, bien sûr. Alors, d'ailleurs, je suis grandie dans une société patriarcale, ça
oui.
c'est de 1. Et moi qui étais une femme ambitieuse, une femme qui aime la vie, voilà, qui aime tout ce qui est vie, aime la danse, la musique, le théâtre, tout ça, mais je n'avais pas le droit à faire rien de tout ça. Et surtout, j'ai grandi avec ma grand-mère, parce que ma mère, l'Arhma, a décédé quand j'avais 3 ans et demi.
D'accord.
Donc, c'est à toi d'imaginer une fille ambitieuse dans une société patriarcale, une société encore plus vraiment conservatrice, puisque je suis de la région orientale.
D'accord.
Donc, qui n'a pas droit même de jouer avec les enfants à un âge vraiment d'enfance. Comme je disais dans mon livre, j'étais une femme dans un corps d'un enfant.
Déjà.
Voilà, oui. Et en plus, j'étais... en fait, moi, j'ai un grand frère et un petit frère,
okay.
mais j'étais responsable de tout le monde, presque.
Parce que tu étais la fille, en fait.
Voilà, j'étais la fille. Et ma grand-mère, elle était occupée, elle, avec ma belle-mère, la femme de mon père. Ils étaient toujours occupés de la couture et tout ça. Parce qu'ils travaillaient quand même dans la maison.
D'accord.
C'était un petit peu le mindset de la femme. Il doit être forte pour combattre la vie.
Mmh. Alors, on va y aller petit à petit. Moi, je veux revenir à la petite fille
ouais.
de 3 ans qui perd sa maman. Est-ce
ouais.
qu'à 3 ans, parce que beaucoup de gens se posent la question quand ils sont dans ce contexte-là, dans cette situation-là, est-ce qu'à 3 ans, on réalise qu'on a perdu sa maman ?
Ben, pas du tout. Et encore pire, lorsqu'on est dans une société qui n'est pas ouverte, qui n'a pas vraiment le sens de la communication. Moi, je me rappelle très bien, quand ma mère a décédé, on était à Kenitra.
Mm.
Et du coup, on était obligés de déménager chez nous à Figik.
Okay.
Donc, c'est vraiment rien à voir. Et lorsqu'on est arrivé à la maison, il nous a dit « voilà ta mère ».
Donc, il s'est remarié très vite ?
Voilà, il s'est remarié très vite. Entre-temps, on était, moi et mon frère, avec mon oncle. Et puis, lorsqu'on est revenu chez ma grand-mère et mon père et tout ça, bah, il nous a dit, voilà ta mère, voilà
okay.
votre mère.
Et s'est remarié dans les 40 jours qui suivent ?
Je ne me rappelle pas très bien,
okay.
je ne sais pas trop, mais voilà, moi je me rappelle très bien la scène, là où on était, on n'a rien compris, comment ça, moi, ma mère, c'est passé là, en fait. Et une tante m'a raconté un jour que je leur disais, ah oui, ça ressemble à ma mère.
Elle lui ressemble.
Donc voilà, mais on ne comprend pas,
ouais.
bien sûr, on ne comprend pas. Par contre, on n'oublie pas. Et surtout, notre inconscient, il n'oublie rien. Du coup, c'est là où, en fait, on construit un masque de protection parce qu'on a la croyance d'être abandonné.
Par la maman.
Par la maman.
Ouais.
Oui, exactement. Et bien là, c'est là où tu vas construire toute ta vie un masque pour te protéger, de ne pas être abandonné à nouveau.
Ouais.
Ben, tu vas être les deux choses. Tu vas être en même temps dépendante affective et en même temps très indépendante dans certains trucs.
Ok. À quel moment est-ce que tu as réalisé que c'était ton autre maman, en fait, que ce n'était pas ta maman, que ta maman était partie? À quel moment tu as réalisé ça?
Je peux te dire, ça fait, je crois, 3 ans ou 5 ans.
C'est tout?
Parce que, en fait, c'est après le décès de mon père. En fait, je l'ai réalisé, bien sûr, quand j'étais petite, mais comme si je croyais que ma mère n'a pas décédé et que ma mère, elle est encore en vie. Surtout, je l'ai appelée maman. Tu vois, genre, la femme de mon père, je l'ai appelée toujours maman.
Et vous aviez toutes les deux quelle relation?
C'était bien.
Oui.
C'était bien, mais il y avait toujours ce manque-là de... En fait, moi, j'appelle ça l'obsession de l'orphelin. Parce qu'à chaque fois quand quelqu'un me fait du mal ou me dit quelque chose de mal, automatiquement, je la lis avec l'absence de ma mère.
Ouais.
Tu vois,
ouais.
Donc, quand j'étais petite, quand j'étais adolescente, encore pire, je disais toujours, si ma mère, elle était là, j'aurais pas vécu ça.
Ouais.
Tu vois, mais en même temps, comme si je voulais vraiment croire que non, j'ai une mère.
Ouais.
J'ai une maman. Tu vois ce que je veux dire?
Absolument.
Mais après le décès de mon père... Bah là, c'est automatiquement, il va reculer un petit peu, il va prendre quand même son... Tu vois ce que je veux dire? C'était vraiment trop difficile pour moi. C'était comme si une étape de... Voilà, j'ai vécu... En fait, j'ai vécu dans un mensonge toute ma vie.
Mmh. Donc, en fait, après le décès de ton papa, la relation a changé, c'est ça?
Il a un petit peu changé, mais parce que moi, la peur d'être abandonnée ou la blessure d'abandon, ça s'est activé encore une fois. Et voilà, je n'étais pas vraiment dans l'acceptation.
Ok. Dans tout ce qui s'est passé avec le décès de ton papa, la réactivation de la blessure de l'abandon, tu étais déjà dans la thérapie, tu étais déjà dans l'accompagnement des autres ou pas encore?
Oui, si, j'étais déjà dans le coaching, parce que moi j'ai fait vraiment un très long parcours, j'ai commencé mon parcours de développement personnel, coaching, énergie, tout ça en 2012.
Ok.
Et en 2016, j'ai perdu la vue. J'ai perdu les deux yeux.
Alors on va y aller petit à petit.
C'est un autre déclic.
Ok, on va y aller petit à petit. Après le bac, tu voulais faire quoi comme études?
Alors, après le bac, j'ai fait des études en économie. J'étais gestionnaire.
Ok. Et à quel moment tu t'es dit, c'est pas pour moi, je veux passer à autre chose?
Voilà, c'était quand j'ai eu ma licence.
Ok.
C'est là où j'ai découvert la première fois le développement personnel. Parce que moi, je suis quelqu'un quand même associatif. Donc, je travaillais dans une association volontaire. Et là, il y avait encore un prof qui faisait un cours de développement personnel. Et pour moi, c'était genre waouh. Et j'ai vraiment aimé le domaine. D'ailleurs, j'étais dans la recherche. Moi, je suis quelqu'un qui lit beaucoup, qui cherche beaucoup et tout ça. Donc voilà, j'ai commencé mon parcours dans le développement personnel, coaching et tout ça. Après, j'ai découvert sciences d'énergie, tout ce qui est Reiki, Prana et tout. Mais en 2016, j'étais déjà coach, déjà aussi guérisseuse en énergie. Voilà, à l'époque, c'était comme ça. Et c'est un jour, j'ai perdu la vue.
D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé?
Le lendemain, c'était un cumul émotionnel. Et c'est là où j'ai découvert que j'étais en train de travailler un petit peu. J'étais pas vraiment dans la profondeur.
Mm.
Pas dans le vrai changement, la vraie transformation. J'étais un petit peu dans tout ce qui est personnalité. Alors que la personnalité, ce n'est pas vraiment ce que je suis.
Mm.
Ce n'est que ce que je crois être.
Ok, mais alors, tu as travaillé dans la gestion ou pas? Tu m'as dit j'étais gestionnaire. Oui. Tu travaillais aussi dans ça, ok?
Si, je travaillais aussi dans ça, mais je travaillais aussi dans les écoles. Moi, j'ai trop adoré, depuis mon enfance, j'adore enseigner.
Et depuis, tu t'es lancée dans ça. Mais ce qui est,
voilà.
ce qui est, Ce qui est compliqué, c'est de penser qu'on a fait un travail sur soi et ensuite d'être rappelé à la réalité. Parce que tu as dit, justement, avec le décès de ton papa, tu as été rappelé à la réalité que finalement, le travail n'avait pas été aussi profond que ça.
Exactement. Exactement. Oui.
À ce moment-là, est-ce qu'on le vit comment ? Comme un échec ?
En fait, ce n'est pas un échec, mais c'est une remise de question. Ah. Une remise en question, genre, est-ce que tout ce que j'ai fait, ça ne m'a pas vraiment aidée à ce point que j'ai commencé encore à souffrir ? Est-ce qu'il y a quelque chose que je n'ai pas encore compris ? Est-ce que, tu vois, surtout, ouais. Mon genre, on est trop dans le mental, on est un petit peu dans l'analyse, on veut tout comprendre, tout contrôler, alors que ça, c'est déjà un mécanisme. Tu vois ce que je veux dire?
Ouais.
Là, c'est un autre chemin qui commence. C'est le chemin vraiment de l'authenticité. Et c'est ce que j'aime transmettre actuellement. C'est vraiment être authentique, être soi-même, revenir à ce qu'on est vraiment.
Oui, mais est-ce que toi, Sarah, tu savais qui tu étais? Quand tu dis revenir à son authenticité, est-ce que tu savais qui tu étais, justement?
Oui. Oui, exactement. Non,
tu as mis tellement de masques, en fait, pour avancer, que qui suis-je ?
Exactement, oui. Oui, ça demande quand même un travail, ça demande parfois un accompagnement, un soutien. Tu vois, ça demande vraiment quand même un chemin. Un cheminement.
Quand tu as eu des frères et sœurs de ton papa et de sa deuxième femme ?
Un frère.
Ta relation avec lui après le décès de ton papa, justement, quand il y a eu toute cette remise en question?
Ça changeait quand même. Ça prenait une autre direction. Parce que comme il était le petit, alors moi, j'étais dans la croyance que je l'aime. Et je l'aime, oui, mais je le contrôle aussi. Je veux le contrôler pour qu'il ne souffre pas comme moi, j'ai souffert. Et ça, c'est la posture de la sauveuse. Tu vois, lorsqu'on est sauveuse, on veut sauver tous les autres, mais surtout les plus proches.
Oui.
Et c'était quelqu'un de très proche, donc j'ai essayé de le contrôler. Ne fais pas ça, fais ça, ça c'est bien pour toi. Et ça marchait quand même à un certain moment, mais à un certain moment quand même, je dois réaliser qu'il est grand, c'est bon, il est un homme.
Oui.
Je dois plus. Tu vois ce que je veux dire? Mais voilà, ça reste mon frère que j'aime, que j'adore et qui m'apprend beaucoup, même si ça a été un petit peu... En fait, on a passé des moments un petit peu challengeants, mais après, tu découvres que c'est les plus proches et qui, parfois, on a l'impression qu'ils nous font de mal, alors qu'il n'y a que de l'amour derrière ce mal-là. Il n'y a que de l'amour, vraiment.
Ta relation...
C'est mal qu'on avance.
Pardon. Ta relation avec ta belle-mère,
oui.
Elle est comment aujourd'hui ?
Elle est parfaite, elle est trop bien, Alhamdoulilah. Voilà, on a réglé ce qu'il y avait à régler, donc voilà, c'est un appel pour aller vraiment à la profondeur, parce que quand même, c'est pas par hasard qu'il est ma belle-mère,
oui.
Tu vois, c'est que derrière, il y a un contrat d'âme, il y a des choses à découvrir, et tu vois, genre... Et comme je l'avais dit déjà, les plus proches, même si parfois on a l'impression qu'ils nous font de mal, mais c'est les personnes avec lesquelles vraiment on avance. Mais on avance lorsqu'on a vraiment cette vision de tout ce qui nous arrive, c'est pour notre bien, c'est pour notre développement, c'est pour vraiment qu'on avance en étant épanoui, en étant bien.
Oui, oui, oui.
Tu vois donc.
Alors, ce chapitre de cécité que tu as vécu, tu as perdu la vue des deux yeux.
Oui.
Ça, c'était après le décès de ton papa ?
Non, c'était avant.
Avant, ok.
Oui, c'était avant. C'était, en fait, c'était un cumul d'émotions parce que moi, j'étais quelqu'un qui diffuseuse de bonheur.
Oui.
Tu vois, je suis là pour tout le monde.
Pour tout le monde.
Je vois que personne n'est là pour moi. J'étais la femme forte. J'étais la femme qui tenait le coup toujours, hein, même s'il y a quoi que ce soit dans la famille, c'est moi qui va prendre l'initiative, c'est moi qui va faire le courage pour tout le monde. Et à un certain moment, j'ai
craqué.
À force vraiment de cumuler, voilà, j'avais en fait l'explosion de vaisseau. Mon œil s'est explosé.
Ouais. Et là, ça va mieux
en arabe. Non, alhamdoulilah, là, je suis encore malvoyante. Genre, je vois avec un seul œil. Mais franchement, je fais tout Tout, 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 tout. Je fais tout. Je fais mon sport. Je fais ma vie normale.
Normal, ok.
Voilà, donc au contraire, moi, je l'ai pris comme un... Il me donne de la force. Avec l'expert. Oui, ce n'était pas vraiment facile. C'était quand même très dur à vivre, très dur à traverser. Parce qu'après, c'était un parcours. Hein. Je suis revenue à l'âge de 27 ans. Je suis revenue à l'école des non-voyants et malvoyants. J'ai pris la CAN.
Pourquoi? Parce que vraiment, c'était les deux yeux qui
voient. Oui, c'était les deux yeux. Oui. Au début, c'était les deux yeux.
Okay.
Après, une œil s'est rétabli quand même. Mais
ouais.
Pas vraiment... genre un point que je vois comme ça, tu vois,
okay.
Genre, j'avais toujours besoin de quelqu'un qui m'accompagne, la canne et tout ça.
Et tu as vécu pendant combien de temps dans la peau d'une personne malvoyante?
Ben, je dirais,
dans le corps d'une personne malvoyante.
En fait, déjà un an avant que je fasse mes interventions chirurgicales.
Oui.
Et puis après l'intervention, c'était en 2017. Quand même, ça m'a pris, je crois, 4 ans, 5 ans presque.
Ah oui.
Même si je faisais pas mal de choses.
Ouais.
Mais par exemple, je ne pouvais pas travailler dans l'ordinateur. Ça fait 2 ans maintenant que voilà, je commence à travailler dans l'ordinateur. En fait, c'est en 2025, je crois. Au début, je faisais que les lunettes de loin.
Oui.
Mais je ne pouvais pas voir, par exemple, l'écriture, lire des livres ou travailler dans le PC. Dans le téléphone, je peux grandir. Mais par contre, dans le PC ou la lecture, genre des livres et tout ça, non, je ne pouvais pas. Mais là, alhamdoulilah, j'ai mes lunettes de près avec mes lunettes de loin toujours à côté.
Alors justement... C'est à partir de tout ça que tu as décidé de devenir également conférencière et mentor.
Exactement.
Ouais.
Et je suis aussi écrivaine. J'ai écrit mon premier livre. Et soit à travers mon livre, les conférences que je fais, les séminaires, les formations, les programmes que je propose, ou même les séances individuelles, en fait, j'accompagne les gens à aussi transformer leurs défis, leurs difficultés, leurs vécus à vraiment à un point de départ vers une vie alignée.
Et en fait, corrige-moi si je me trompe, c'est toi la professionnelle, mais le premier point le plus important, c'est la prise de conscience.
Exactement.
Et ne pas chasser la prise de conscience, parce que parfois, on peut avoir une prise de conscience, mais elle risque de perturber l'écosystème dans lequel on est, donc on se dit non, je ne l'écoute pas, je la chasse.
Exactement.
Voilà, mais des fois, elle devient insistante et on ne peut plus la chasser.
Oui, exactement, parce qu'il y a toujours des loyautés invisibles. Tu vois, en fait, inconsciemment, on veut toujours être fidèle à nos ancêtres, fidèle à notre clan. Du coup, parfois, c'est un petit peu, ça demande le courage. Je ne vais pas dire que c'est difficile, mais juste ça demande un vrai courage d'aller affronter ses peurs, d'aller voir dans la profondeur ses blessures. Tu vois, pour qu'on puisse finalement être ce qu'on est vraiment.
Toi, tu as compris tes loyautés familiales, Sarah?
Oui, j'ai compris pas mal de loyautés, mais certainement, peut-être il reste encore quelques-unes que je n'ai pas encore vues, mais voilà, j'ai compris pas mal de loyautés. Pourquoi? Parce qu'à un certain moment, quand tu fais un vrai travail, même dans la profondeur, là, tu ne juges pas les situations genre mauvaises. Tu vois, genre, oui, c'est une situation que je traverse, ça a des messages que je dois comprendre, que je dois prendre, et après j'avance. Mais par contre, là, il y a une nouvelle peur, c'est la peur d'aller plus loin, la peur de vraiment de vivre ta grandeur, tu vois, la peur vraiment de la réussite. Par exemple, quand j'avais la cérémonie de signature de mon livre, je me rappelle, dans toute ma vie, je n'ai jamais stressé autant que j'ai stressé ces jours-là. Parce qu'il y a une grandeur qui s'ouvre, il y a vraiment une réussite un petit peu bizarre par rapport à ce que j'ai vécu, par rapport à ma famille, par rapport à mon clan.
Oui, et justement ton clan, est-ce qu'il accepte que tu parles de lui et de ses fragilités facilement?
En fait, moi, quand je partage quelque chose, j'essaie de ne parler que de moi, de ma vision, de ce que j'ai vécu. Mais quand même, je crois que la société est un petit peu connue. Hein. C'est-à-dire chez la plupart des gens, on connaît très bien la société marocaine, et spécialement la région orientale. Donc, on connaît un petit peu comment notre éducation il est, comment, tu vois.
Parfait.
Donc,
ouais, je comprends. Alors, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, justement
ce que vous voulez.
De quoi as-tu besoin actuellement? On a tous des petits besoins à un moment ou à un autre de notre existence.
Alors, moi, vraiment, ma mission, mon souhait, c'est d'avoir, en fait, de pouvoir accompagner le maximum de gens, surtout le maximum de femmes. Parce que je sais que la femme marocaine est une femme très puissante. Mais à un certain moment, on est glissé dans la croyance d'être une femme forte, alors qu'on ne peut pas être une femme forte. Par contre, on est des femmes puissantes, tu vois. Et
c'est
on
quoi
peut
la
pas
différence
accéder. En fait, la différence, c'est que quand tu te crois une femme forte, tu fais des efforts même quand tu ne peux pas. Et ça, toujours, ça part d'un espace de peur, pas d'un espace vraiment d'amour. Tu vois, c'est des masques, en fait. Parce qu'on ne peut pas être une femme forte. On ne peut pas, la force, ce n'est pas à nous. Mais quand tu es, par exemple, responsable depuis ton enfance, quand tu as vécu peut-être une insécurité, ben, à force d'essayer de te protéger, ben là, tu construis le masque de la femme forte. Mais finalement, tu te trouves épuisée, tu te trouves fatiguée. Ben, moi, mon appel à toutes les femmes de revenir à leur puissance. Par contre, la puissance, non, c'est de rester calme, de rester sereine, de rester en paix, en même temps de réaliser ses objectifs, en même temps d'aller plus loin dans ses rêves, d'aller au bout de ses rêves. Tu vois ce que je veux dire?
Ouais,
donc voilà,
absolument.
Mon souhait, moi, c'est d'accompagner le maximum à vraiment revenir à leur authenticité, parce que c'est ça le plus important, c'est d'être soi-même, c'est d'être authentique. Parce que quand même, on vit dans une société qui est trop dans les apparences. Tu dois te maquiller, tu dois bien t'habiller, tu dois faire ça. Non, c'est chouette de faire ça. Non. Tu vois ce que je veux dire?
Oui, oui.
Alors là, vraiment, on se déconnecte de ce qu'on est vraiment.
Donc voilà, force versus puissance. Merci beaucoup pour cette nuance, justement, Sarah Hakou. Merci infiniment d'avoir été ma femme d'aujourd'hui.
Avec plaisir. Merci à toi.
Merci, Lella Sarah.
Moi, je t'honore et je t'admire et j'aime trop ce que tu partages.
Allah Akbar Bik.
Vraiment, voilà, avec une mission noble.
Merci beaucoup.
Et on a besoin de femmes comme toi.
Arbi Khalik, merci Sarah.
Tout mon respect, tout mon amour à toi, Yasmine.
Merci. Merci à toutes et à tous pour votre confiance. Femme d'aujourd'hui et sa version homme, c'est du lundi au vendredi sur les ondes de Média et à tout moment, à la demande et en avant-première sur Média Podcast et les plateformes de podcast habituelles.